Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté, tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles le temple. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnerait-il pas, toi, qui la transgresses tout en ayant la loi écrite et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.
L'hypocrisie, c'est quoi? Faire le contraire de ce que l'on dit, faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Et il faut reconnaître que c'est un mal que nous voyons à tous les niveaux de la société. On se rappelle, il y a à peu près 2 ans, l'affaire Cahuzac, où le ministre chargé de lutter contre la fraude fiscale est lui-même reconnu coupable de fraude fiscale. Ou cette semaine encore, un homme politique connu pour ses positions féministes qui est accusé de harcèlement à l'égard de nombreuses femmes. De même, la société est choquée, par exemple, lorsque des hommes d'église sont accusés d'avoir mal agi, voire d'avoir commis des crimes. Parce que c'est une chose de mal agir. C'est pire encore de mal agir alors qu'on affirme être porteur d'un message de vertu et qu'on dénonce les agissements des autres. Et bien dans ce texte, l'apôtre Paul parle d'hypocrisie. Et plus précisément, il dénonce l'hypocrisie du judaïsme de son temps. Alors la dureté de ce texte a parfois peut mettre mal à l'aise et a pu même donner lieu à certaines accusations d'antisémitisme à l'encontre de Paul. Mais ces accusations ne tiennent pas. Alors, d'abord au passage, rappelons que Paul est lui-même juif. Mais surtout, on a vu il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient là, ou ce matin, pour ceux qui étaient là, dans la seconde partie du premier chapitre, avec quelle sévérité l'apôtre Paul dénonce le monde païen, le monde non-juif de son temps. Et dans le réquisitoire qu'il dresse en quelque sorte contre l'humanité, il commence par parler de la situation du monde non-juif. Et après ce sombre tableau, eh bien il passe au chapitre 2 à la situation de son peuple, le peuple juif. Et il montre que malgré les apparences, eux aussi se sont égarés et sont coupables devant la justice de Dieu, au même titre que les non-juifs. Donc le propos de Paul n'est pas de mettre l'accent sur les non-juifs à l'encontre des juifs, aux dépens des juifs ou sur les juifs aux dépens des non-juifs, mais de montrer que tous les hommes, toutes les femmes, ont le même problème fondamental, le péché, que tous se sont égarés et que tous ont également besoin de cette bonne nouvelle que l'apôtre Paul s'apprête à annoncer et dont il a parlé en introduction de sa lettre. Et au-delà du contexte de son temps, avec cette question des relations entre juifs et non-juifs qui était particulièrement sensible à l'époque de Paul, Eh bien, au-delà de cela, Paul va montrer que la religion sans Jésus est toujours une illusion et que nous avons tous besoin d'une transformation du cœur que seul Jésus peut apporter. Et donc, je vous propose de réfléchir à ce texte en deux temps. Alors, il y a deux semaines, on était dans un registre juridique. Là, on est plutôt dans un registre médical. Le constat d'une maladie du cœur, dans un premier temps. Le besoin d'une greffe de cœur, dans un deuxième temps. Le constat d'une maladie du cœur, d'abord. Avant sa célèbre rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul était membre, en fait, de l'élite religieuse d'Israël, de son peuple. Son CV était impeccable selon les normes de son peuple, de son contexte, de sa religion. Le livre des Actes nous dit qu'il avait étudié auprès d'un professeur de grande renommée, dont il est question également en dehors de la Bible, Gamaliel. Donc c'était un petit peu l'équivalent de Normale Sup ou Polytechnique dans le monde juif de l'époque. Paul vraiment avait un pédigré nickel en termes de judaïsme. Et d'ailleurs, dans sa lettre aux Galates, il affirme ceci. En parlant de son passé, il dit « J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple. » Donc s'il y a bien quelqu'un qui avait été fier de son héritage religieux, c'était bien Paul. Mais sa vision a été bouleversée quand il a rencontré Jésus. Il n'a pas cessé d'être juif, et d'ailleurs il en parle encore avec fierté, un peu plus loin dans cette même lettre aux Romains. Donc là encore, il ne faudrait pas mal comprendre ce que dit Paul. Mais il va poser un regard très différent sur la réalité du judaïsme de son temps. Comme je l'ai dit, on a vu il y a deux semaines avec quelle sévérité l'apôtre Paul dénonce le monde païen de son temps. Et jusque-là, ses lecteurs juifs, en lisant cette lettre, pouvaient se dire « Amen, mais on est entièrement d'accord avec toi, Paul. Ces païens idolâtres, c'est des gens égarés, dépravés, immoraux, incapables de connaître le seul vrai Dieu qui se réfugie dans l'adoration des idoles. C'est ridicule. T'as raison, Paul. » Mais au début du chapitre 2, l'apôtre Paul les prend complètement à contre-pied. « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. » Chapitre 2, verset 1. Ah, ça calme d'emblée. Et on devine dans cette première partie du chapitre 2 que Paul s'adresse implicitement, de manière sous-entendue, aux juifs de son époque, aux juifs religieux, aux juifs pratiquants, comme on dirait aujourd'hui. Mais dans le texte de ce soir, l'accusation devient tout à fait explicite à partir du verset 17. « Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté, tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. » En disant tout cela, Paul n'est pas forcément ironique. Il rappelle le vrai privilège du peuple qui a reçu la loi de Moïse et le témoignage des prophètes tout au long de son histoire. Le problème que Paul dénonce, c'est l'hypocrisie, verset 21. « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. » Paul ne remet pas en question la richesse de l'héritage de son peuple, comme on verra d'ailleurs la semaine prochaine, mais il affirme que les Juifs ne sont pas meilleurs que le reste des hommes. Et cette loi qui fait leur fierté, en réalité, elle les accuse. Alors bien sûr, Paul n'accuse pas tous les Juifs de son temps à être à la fois voleurs, idolâtres, adultères, mais il considère d'un point de vue général la situation de son peuple et il constate qu'il n'est pas moralement supérieur aux autres. Il a certes l'apparence de la religion et de la vertu, mais est-il réellement moins voleur que les autres peuples, moins adultère que les autres peuples et même moins idolâtre que les autres peuples? Et pour Paul, la réponse est non. Il est possible que dans ce texte, Paul évoque le vol, l'adultère, l'idolâtrie dans le sens renforcé que leur donne Jésus. Non seulement, par exemple, l'adultère concret, le fait d'aller tromper son conjoint, mais aussi l'adultère du cœur qui convoite la femme ou le mari de l'autre. Non seulement l'idolâtrie grossière avec de petites statuettes, etc., mais l'idolâtrie du cœur qui accorde à d'autres choses qu'à Dieu l'adoration qui lui revient. Ou par exemple, même si Jésus n'emploie pas à strictement parler cet exemple, non pas seulement le vol d'un objet dans un magasin par exemple, ou que sais-je, mais par exemple le vol de le fait de s'attribuer à soi l'honneur qui devrait revenir à quelqu'un d'autre, le fait de revendiquer pour soi ce qui n'est pas le sien. Mais quoi qu'il en soit, l'apôtre Paul fait le constat lucide qu'Israël n'est pas plus juste que les autres peuples. Et à vrai dire, il n'est pas le premier à dire ça, et de loin pas. Les prophètes d'Israël eux-mêmes, régulièrement, parlaient en ces termes. À maintes reprises, ils dénonçaient l'hypocrisie religieuse de leur propre peuple. Donc si on écoute par exemple le prophète Ésaïe, voici ce qu'il dit en se faisant porte-parole de Dieu. Il dit « Ce peuple m'honore, s'approche pardon, de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ésaïe 29, verset 13. Et bien d'autres passages dans la même veine. Maintenant, si on tient compte du contexte plus large de notre passage, de Romains 2, on comprend que bien au-delà de la question du judaïsme, Paul parle d'un problème humain. Nous sommes des êtres tiraillés entre le bien et le mal, capables selon les contextes du meilleur comme du pire, très souvent en porte-à-faux avec nos propres principes, sans parler de ceux que nous imposons aux autres ou que Dieu révèle dans sa parole. On pourrait multiplier les exemples. Il y a des gens qui défendent avec fierté une vision traditionnelle de la société, mais qui exploitent leurs employés, ou encore qui se laissent empoisonner par la pornographie sur Internet. D'autres fustigent les profiteurs ou les assistés, mais sont les premiers à chercher à tirer eux-mêmes profit du système social. D'autres vont aller manifester contre les OGM ou les patrons voyous, mais trompent leurs conjoints et mentent à leur famille. D'autres se veulent le défenseur de la veuve et de l'orphelin, mais sont à l'affût des honneurs et de la reconnaissance sociale. L'hypocrisie, elle est de tous les bords politiques, de toutes les philosophies et même de toutes les religions. Parce que le problème est profond, il est commun à tous les hommes. Le film Collision, sorti en 2004, je sais que certains d'entre vous étaient quasiment des enfants à cette époque-là, mais un très bon film qui met en scène deux policiers. Il y a un gars bien sous tout rapport, courtois, respectueux, ouvert d'esprit, et un autre de la même équipe qui est raciste, sexiste, corrompu et vulgaire. Donc le contraste est saisissant entre les deux, et il l'est encore plus lorsque le deuxième, donc celui qui est raciste, sexiste, etc., commet un jour une agression sexuelle lors d'une interpellation, et il le fait sous les yeux de l'autre, qui du coup va aller le dénoncer à sa hiérarchie. Mais à la fin du film, le mauvais policier va brusquement faire preuve d'héroïsme au moment où, alors qu'on ne s'y attend vraiment pas, il va aller délivrer d'un incendie au risque de sa vie la femme qu'il avait agressée quelques mois plus tôt. Tandis que le bon policier, rattrapé par ses préjugés raciaux inavoués, va confondre un téléphone portable et une arme à feu et commettre une terrible bavure. C'est un film qui est excellent, je trouve, mais qui met assez mal à l'aise. Parce qu'on n'a pas envie de voir le bon type agir mal, même une seule fois. Et on a encore moins envie de voir le mauvais type agir bien, même une seule fois. On a envie de dire « Non, non, mais lui, c'est un méchant, c'est pas possible qu'il fasse quelque chose comme ça. » Mais la Bible et l'apôtre Paul, dans ce texte, posent un regard bien plus lucide sur la condition humaine que l'humanisme hypocrite de notre temps. La Bible nous parle d'un homme créé à l'image de Dieu, créé pour le bien et qui aspire encore au bien d'une certaine manière, mais en même temps pécheur, régulièrement rattrapé par le mal. L'être humain a un problème de cœur, c'est ce que nous dit Paul dans ce texte. Et le cœur, dans la Bible, ça veut dire pas seulement le lieu des émotions. Aujourd'hui, quand on dit cœur, on a tendance à penser vraiment à l'émotionnel seulement. Mais dans la Bible, le cœur, c'est plus que cela, c'est aussi la volonté, la conscience, la raison même. Et Paul nous montre que l'homme s'illusionne toujours lorsqu'il croit être moralement supérieur aux autres. Alors, en disant cela, il ne s'agit pas de tomber dans le relativisme, il ne s'agit pas de dire Daesh et les Restos du Cœur, c'est, en fait c'est la même chose, c'est le même combat. Non, bien sûr que non. Il y a des actes mauvais, il y a des actes bons, il y a des actes qui sont beaucoup plus graves que d'autres. qui ont des conséquences beaucoup plus dramatiques. Il y a des gens qui se sont complètement laissés submerger par le mal, d'autres qui s'efforcent de vivre une vie relativement droite. Mais nous, nous sommes tous égarés. Nous avons tous besoin d'une intervention radicale. C'est notre deuxième point, le besoin d'une greffe de cœur. Alors, en faisant quelques recherches pour ce message, j'ai appris que la première greffe de cœur a eu lieu en 1967 en Afrique du Sud. Et le premier bénéficiaire, c'était un certain Louis Washkansky. Alors, il a survécu que 18 jours, non pas parce que la greffe n'a pas marché, en soi elle a marché, mais à cause des effets secondaires d'un traitement qu'il a dû suivre parallèlement. Mais aujourd'hui, plus de 3500 transplantations cardiaques ont lieu chaque année, avec, dans la plupart des cas, de bons résultats. Dans ce texte, Paul nous dit, avec les mots de son temps et dans le contexte de son temps, que nous avons tous besoin d'une greffe spirituelle de cœur. On a déjà vu que pour Paul, le simple fait d'avoir la loi de Moïse et d'avoir des principes très fermes, ça ne change pas la condition spirituelle fondamentale du peuple d'Israël ou de qui que ce soit. Comme le reste des hommes, les Juifs sont malades du cœur. Et Paul va souligner ce constat à nouveau en évoquant dans la deuxième moitié du texte la question de la circoncision. Donc ce petit acte chirurgical opéré sur le sexe des garçons peu après la naissance était le symbole de la mise à part d'Israël, sa vocation à être le peuple consacré à Dieu. Mais pour Paul, là encore, il y a un décalage entre ce symbole et la réalité spirituelle vécue. Verset 25. « Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. » Alors, j'ai déjà donné cet exemple par le passé, mais dans un sens, avec les limites de toute comparaison, on peut comparer cela à une alliance, à une bague de mariage. Une alliance, ça symbolise l'engagement pris, la fidélité promise, et elle a du sens à la fois pour le couple lui-même, comme rappel de l'engagement qu'il a pris, mais aussi pour les autres. Et en gros, entre autres choses, une alliance, ça veut dire « je suis déjà pris, je suis déjà engagé ». Mais bien sûr, il est possible de porter une alliance facilement, tout en ne vivant pas cette réalité, tout en trompant sa femme ou son mari, ou en lui manquant de respect. Et d'ailleurs, n'importe qui peut aller s'acheter une alliance, même sans être marié, et décider de la porter. Donc il est évident que le symbole a vocation à représenter une réalité, mais dans les faits, la réalité peut être complètement en décalage avec le symbole. Et bien ici, Paul accuse nombre des Juifs de son temps d'être circoncis physiquement, ça concerne les hommes bien sûr, mais le principe vaut d'un point de vue général, mais de ne pas vivre la réalité que la circoncision représentait, c'est-à-dire le fait d'être consacré à Dieu, le fait de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Verset 25, « Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si tu transgresses la loi, le symbole ne veut plus dire grand-chose. » Et Paul donne ensuite l'exemple à contrario, verset 26, « Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision ? Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnera-t-il pas ? Toi qui la transgresses tout en ayant la loi écrite et la circoncision ? » C'est un petit peu dense, hein, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Pour revenir à l'exemple de l'alliance, imaginez une jeune femme à qui on dirait « Qu'est-ce que tu préfères ? Un mari attentionné, fidèle, gentil, qui ne porte pas d'alliance ? Ou bien un mari volage, irresponsable et violent qui porte une alliance ?» La réponse est vite vue. Mieux vaut avoir la réalité sans le symbole que le symbole sans la réalité. Et en fait, c'est ça que Paul dit au verset 25 à 29. Il ne faudrait pas mal comprendre ces versets. Paul ne veut pas dire que les non-juifs vivent mieux que les juifs. Ça contredirait tout ce qu'il a dit au chapitre 1. Ce qu'il dit, c'est que le vrai besoin des hommes, ce n'est pas d'être symboliquement consacré à Dieu, mais d'être réellement consacré à Dieu. Et ça, pour l'apôtre, ce n'est pas une question de circoncision physique, ou d'appartenance ethnique même. Et ça, c'est révolutionnaire ce qu'il dit pour ses lecteurs juifs. Ce n'est pas ça qui compte. C'est une question de cœur. Et c'est ce qu'il explique au verset 29. Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit, et non par la loi écrite. Alors la circoncision du cœur, sans doute pas l'image qu'on emploierait, ça peut nous sembler curieux, mais Paul n'invente pas cette image. Elle est utilisée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, précisément pour montrer la différence entre la vraie consécration à Dieu et celle qui n'est que superficielle. Écoutez ce qu'en dit le livre du Deutéronome, par exemple, à propos d'Israël. « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. » Deutéronome 30, verset 6. Et le prophète Jérémie, bien plus tard, s'exprime dans les mêmes termes. « Toutes les nations sont incirconcises, et la communauté d'Israël tout entière a le cœur incirconcis. » Jérémie 9, 25. Ce qui permettra à l'homme de vivre en bonne conscience devant Dieu, de lui être vraiment consacré, de le connaître, ce n'est pas le fait d'avoir les signes visibles ou rituels de la piété. Ce qui permet de connaître Dieu, c'est d'avoir un cœur transformé. Or, tout médecin vous confirmera, je pense, qu'on ne peut pas se greffer un cœur à soi-même. Ça doit venir de l'extérieur. Le seul qui puisse changer notre cœur, c'est Dieu lui-même. Verset 29, la circoncision, c'est celle du cœur accompli par l'Esprit, le Saint-Esprit, dont nous rappelons tout particulièrement aujourd'hui la venue, et non par la loi écrite. L'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui intervient personnellement pour changer notre cœur. Rappelons ce que Paul a proclamé avec tant de force en introduction à cette lettre, au chapitre 1, verset 16. « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » La puissance de Dieu. Voilà ce qu'est l'Évangile, l'intervention décisive de notre Créateur pour nous ramener dans une relation de paix avec lui, malgré nos insuffisances, malgré nos offenses. Et si on développe un petit peu plus l'image de la greffe de cœur, on pourra souligner que cette opération, elle passe par la mort de quelqu'un dont le cœur est en bonne santé. C'est ce qui est saisissant avec les greffes d'organes, c'est que le drame de quelqu'un fait la joie et la restauration de l'autre. Donc une greffe du cœur, ça passe par la mort de quelqu'un dont le cœur est en bonne santé. Et c'est ce cœur en bonne santé qui est greffé sur le malade. C'est la mort de quelqu'un qui permet à quelqu'un d'autre de continuer à vivre. Eh bien, Paul montrera bientôt, au chapitre 3, que ce changement de cœur que Dieu nous offre, il est passé par la mort du seul véritable juste, de celui qui, contrairement à nous, ne s'est jamais compromis avec le mal, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. La religion sans Jésus est une illusion, quel que soit le nom qu'on donne à cette religion, même évangélique baptiste. S'il n'y a pas Jésus, c'est une illusion. Lorsqu'on cherche à vivre une vie de piété, ou même plus largement, une vie respectable, même si on n'est pas croyant et qu'on cherche à vivre une vie respectable par ses propres moyens, eh bien on sera régulièrement en porte-à-faux avec ses propres principes. Si on s'appliquait vraiment à nous-mêmes ce qu'on applique aux autres, on serait souvent trouvé coupable à nos propres yeux, sans même parler de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et donc la foi chrétienne, elle passe par cette humilité radicale qui reconnaît que nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes. C'est vrai pour ceux d'entre nous qui sont non-chrétiens, j'imagine qu'il y en a peut-être quelques-uns ce soir, et vous cherchez sûrement, d'une manière ou d'une autre, à donner du sens à votre vie en dehors de l'intervention de Dieu, l'intervention décisive de Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit que c'est impossible et que c'est une illusion. Mais c'est vrai aussi pour nous qui sommes chrétiens. Si nous ne puisons pas auprès de Dieu, par la prière, par la méditation de sa parole, les ressources pour vivre cette vie nouvelle, eh bien on se retrouvera dans la peau de cet homme religieux que Paul dénonce dans ce chapitre, plein de principes, mais hypocrite, en proie à l'illusion d'être supérieur aux autres, alors qu'il a le même problème de cœur. La semaine dernière, un théologien évangélique américain assez connu, Russell Moore, a sévèrement critiqué certaines prises de position du candidat Donald Trump dans un entretien. Et en réponse, Trump a tweeté que Moore était un homme méchant et sans cœur. Je crois qu'on peut voir le tweet sur la diapo d'après. Voilà. C'est un homme méchant et sans cœur. Alors, les médias ont demandé à Moore, donc, sa réaction à ce tweet. Et il a répondu, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis effectivement un homme méchant et sans cœur. C'est pour ça que j'ai besoin de la grâce de Jésus-Christ. Et c'était frappant de voir la réaction des journalistes qui s'attendaient à toutes les réponses sauf celle-là. Mais l'évangile est comme ça. Il nous pousse, même lorsque nous sommes attaqués ou critiqués, à reconnaître sereinement que nous avons désespérément besoin de Dieu. Et c'est justement lorsqu'on reconnaît ce besoin et cette insuffisance qu'on peut commencer à vivre la vie nouvelle, pleine de confiance et d'espérance, que Dieu nous invite à vivre. Alors tournons-nous vers Dieu, demandons-lui de transformer et de continuer à transformer notre cœur. Prions. Merci, notre Père, pour ton Saint-Esprit qui nous révèle que nous avons besoin de cette transformation radicale et qui, en même temps, est celui qui opère cette transformation. Père, nous voulons reconnaître ce soir encore que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu travailles dans notre cœur. Peut-être pour certains ce soir, il y a le besoin d'abord de se tourner pour la première fois vers toi et de reconnaître que c'est auprès de toi, notre Créateur, que nous trouverons les ressources pour vivre la vie que nous avons vocation à vivre. Merci pour ton Fils Jésus qui a subi à notre place le jugement que nous méritions pour toutes nos offenses contre toi. Merci parce que Jésus nous a envoyés avec toi, ton esprit, pour que nous puissions vivre cette vie nouvelle. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants en même temps que, si souvent encore, nous ne sommes pas à la hauteur. Mais nous voulons te remercier, parce que tu es celui qui, par ce même esprit, nous garde attachés à toi. Et si nous sommes parfois infidèles, toi, tu restes fidèle jusqu'au bout. Et nous te remercions pour cela, au nom de Jésus. Amen.